Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
C'est à la fois l'histoire d'une époque, l'histoire d'un pays, l'histoire d'un combat dont le dénominateur commun est une femme, à l'orée de la cinquantaine, qui veut se libérer d'un passé insupportable. C'est aussi l'histoire du temps qui n'efface rien et que l'on ne peut remonter. Il s'agit d'un beau roman intitulé Oyana, édité par Quidam Éditeur, et j'ai le plaisir d'en accueillir l'auteur, Éric Plamondon. Éric Plamondon, bonjour.
Bonjour.
Alors, avec vous, nous sommes dans l'international, Espagne, France, Mexique et Canada. Voilà les lieux où vont vous conduire, où va nous conduire votre roman. Il est vrai que vous-même, vous naviguez sur deux continents, si j'ai bien compris.
Oui, tout à fait. Je suis québécois d'origine. J'essaie de prendre un petit peu mon accent pour que vous me croyez bien. mais ça fait 20 ans maintenant que j'habite en France, à Bordeaux plus précisément. Donc parfois, j'ai aussi un peu... Je peux avoir l'accent bordelais qui est assez fort aussi de son côté.
Bon, bah, écoutez, vous pourrez varier.
Ça va varier selon le sujet.
Alors, tout commence par une lettre. Et comme les saumons qui remontent la rivière, nous allons... Dans votre livre, remontez le cours de l'histoire, alors celle avec un grand H et celle de Oyana. Alors, ça commence ainsi. Pour toi, Xavier, je te dois un tas d'explications. Ça risque d'être long. Nous sommes en mai 2018 et voici la lettre d'un dieu, d'Oyana, à celui qui est son compagnon depuis 25 ans. Alors, d'abord, j'aimerais qu'on parle rapidement de la construction de votre roman. Est-ce que c'est un roman épistolaire ?
Ben, au début, c'était un petit peu le défi que je m'étais donné, oui, parce que question de forme, de faire différemment de mon précédent roman Takawan. Après, c'est vrai que depuis que j'écris, j'utilise cette forme très fragmentée, avec des très courts chapitres, etc. Et la lettre m'est apparue, bon, pour une autre raison aussi, comme la solution à cette histoire-là. Mais après avoir commencer juste, entre guillemets, dans l'épistolaire, par rapport à ce que j'ai fait avant et ce que j'aime faire, il me manquait quelque chose. Donc, je suis retourné à ces espèces de sauts, ces autres angles d'attaque de l'histoire qui sortent de la lettre, qui débordent de la lettre. La lettre seule ne me suffisait pas, en fait. Mais il y a tout ce côté épistolaire, quand même.
Et pour le lecteur, c'est très agréable, ce changement, justement, de genre. Alors, il y a également le récit de faits anciens et il y a l'insertion aussi de documents très variés, très divers, bon, sur les rappels historiques sur les théâtres. On apprend beaucoup, je dirais, à nos auditeurs, sur l'histoire même du Pays basque, sur les mœurs anciennes. J'ai beaucoup ri à la page 119, peut-être qu'on aura le temps d'en reparler. Des souvenirs marquants qui ont marqué l'héroïne de cet ouvrage, le 11 septembre par exemple. Et puis, il y a également des insertions de vocabulaire québécois. Alors moi, un bec, j'ai compris ce que c'était. Niaiser, j'ai bien compris. Arsoude, j'ai pas compris.
Arsoude, quelque part, c'est arrivé quelque part. Il y a Arsoude dans le parté, il y a Arsoude le matin à la maison.
D'accord. Voilà. Donc, nos auditeurs ont bien compris que c'est très varié et que vraiment, dès le départ, on est accroché. Alors, qui est Oyana ?
Oyana, c'est une, comme vous l'avez dit, au début du roman, elle est plutôt québécoise. Ça fait 20 ans, plus de 20 ans qu'elle vit à Montréal. Mais on va apprendre petit à petit que au départ, elle a grandi au Pays Basque. Elle a grandi à Cibourg, elle est née à Cibourg, dans le sud donc de la France. Quand on dit Pays Basque, bon, il y a tout le Pays Basque français, le Pays Basque espagnol, qui c'est pas tout à fait la même chose, mais pour l'histoire ici, on va parler du Pays Basque en général. Et on va, à la lecture de ses lettres, découvrir justement son parcours. On ne sait pas au départ. On commence par... on va aller à rebours son histoire et de sa vie à partir de cette double nationalité qu'elle s'est construite, cette double vie.
Et elle décide de rentrer en Europe. Alors pourquoi cette décision, finalement ?
Ben, c'est tout le nœud du roman. C'est-à-dire que, par hasard, elle va apprendre en mai, comme vous l'avez dit tout à l'heure, plus précisément le 3 mai 2018, l'organisation ETA basque annonce sa dissolution totale, complète. Ils avaient déjà déposé les armes avant, mais là, c'est vraiment la fin de l'histoire de l'ETA officielle. Et elle va apprendre ça par hasard à Montréal en lisant le journal. Et ça va être l'élément déclencheur qui va complètement la chambouler, qui va être le, 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 comme je dis, qui va amener la débâcle. C'est comme si elle a plein de non-dits en elle, elle a plein de secrets qui sont liés à cette histoire-là, mais qu'elle a réussi à retenir, comme elle a fait un barrage de sa vie.
Oui.
Mais en même temps, il y a cette espèce de petite perle, vous voyez, d'eau qui passe dans une petite fente du barrage. Mmh, et le jour du 3 mai, le barrage cède, en fait. Mmh. Et c'est...
Alors justement, j'aimerais que, pour nos auditeurs qui vous écoutent, lorsque justement elle apprend cette nouvelle, alors c'est à la page 17, je vous tends votre livre.
Et vous allez me faire lire comme ça, avec le micro devant moi, c'est pas pratique, hein, mais je vais faire de mon mieux. Il faut savoir que ce fameux roman, ce côté épistolaire, au début du roman, on a droit aux essais. Au brouillon de la lettre d'Oyana qui ne sait pas au début, elle ne sait pas où elle s'en va. Elle a besoin des mots, mais elle ne sait pas où elle s'en va.
Elle dit qu'elle a besoin des mots, voilà. D'écrire.
D'écrire,
de parler. Hein, elle a du mal.
Pour comprendre, se comprendre. Et donc ça, c'est un autre brouillon où elle écrit « Ce matin, après ton départ pour l'hôpital, j'ai marché jusqu'au parc du Mont-Royal. J'avais besoin de prendre l'air. Il faisait beau. Je voulais voir la ville. » Hier soir, au resto japonais, j'ai feuilleté le journal. Une brève annonçait qu'à 6000 km d'ici, l'ETA avait cessé d'exister. Je suis allé voir sur Internet ce matin après ton départ. L'organisation armée indépendantiste a décidé de se dissoudre. Ses membres ont décidé que la lutte armée était terminée. Les armes et la violence ne seront plus une solution pour faire des 7 provinces basques un pays. L'État espagnol et l'État français n'auront plus à craindre les fusillades, les explosions, les attentats. Ils voulaient sauver leur langue par la bouche des canons, leur culture par la dynamite. Que peut-il rester de tout ça? Les traumatismes dans les mémoires? Les nombres de cadavres depuis 1953? Une certitude demeure. La peine des proches, des familles, des amis. Depuis 23 ans que je vis à Montréal, se pose pour moi, et pour la première fois, la question du retour.
Voilà. Voilà le nœud du problème, et tout va tourner autour de cela. Alors... Moi, je me suis renseignée, bien entendu, et vous, n'en parlons pas, vous êtes au fait. Mais pour nos auditeurs, et nos jeunes auditeurs, par exemple, l'ETA, ça ne veut pas dire grand-chose. Vous pouvez en dire un petit mot?
Oui, j'ose pas me présenter comme un expert. C'est vrai que j'ai fait des recherches. Moi, je suis allé chercher ce qui m'apparaissait, ce qui marchait le mieux pour mon livre.
Mm-hmm.
Après, ce qui m'avait étonné quand je... commencé à m'intéresser à cette question-là. D'ailleurs, je me suis intéressé très vite parce que je m'y suis intéressé. À mon arrivée, je disais que ça fait 20 ans que je suis en France. Et en fait, je suis arrivé en 96. J'ai passé mon premier été au Pays Basque. Et c'était un an après le second référendum sur l'indépendance du Québec. Et je débarquais au Pays Basque et là, tout à coup, je prenais toutes ces questions, ces histoires d'indépendance, de nationalisme ici en France. Et moi, j'étais très, très étonné. Donc, c'est ça le début de mon interrogation. C'est le déclic. Et j'ai mis du temps à creuser pour savoir où ça avait vraiment commencé. Après, dans le livre, je pense que le point important qu'on ignore beaucoup, c'est que c'est en droite ligne avec la guerre d'Espagne. Les Basques ont beaucoup souffert dans ce combat parce qu'ils avaient déjà, territorialement, nationalement parlant, une force que Franco voulait absolument détruire, mais qui remonte encore plus loin sur ce qui est un peuple uni et un peu différent, et bon, c'est
avec
un peu l'histoire.
Avec une langue,
qu'on ne sait toujours pas d'où elle vient et qui est millénaire. Donc, vraiment, c'est une histoire très, très longue qu'on ignore. Je pense qu'on en connaît un petit peu plus aujourd'hui.
Symbolisé par Guernica, le tableau de Picasso.
Voilà, quand on parle de la Seconde Guerre mondiale, c'est pas par hasard qu'on a frappé Guernica, c'est parce que c'était chez les Basques, au départ.
Un nœud d'opposition.
Ils ont toujours été très forts, beaucoup dans l'opposition, justement, face à la centralisation, les guerres carlistes, et on peut remonter dans l'histoire à chaque fois. Ils s'opposent, là, les Basques, dans leurs montagnes, au bord de l'eau. Donc, les racines sont très, très profondes dans cette histoire.
Et même après la mort de Franco, on pensait que les choses allaient... les attentats ont continué. Hein. Et donc, c'est en janvier 2013 déjà que Batasuna, je ne sais pas comment on prononce, annonce la dissolution. Voilà. Alors, ce qu'on apprend, c'est que Oyana est née en 73. Et ce qu'on va apprendre, c'est que son père a été tué à ce moment-là. Et Justement, on voit déjà on vous parlait des problèmes des attentats et la préparation d'un attentat dès le départ, évidemment, ça interpelle. Évidemment, on est sensibilisé encore plus maintenant, peut-être.
Oui, c'est sûr que ça prend une autre dimension de parler de ça aujourd'hui.
Oui.
Mais quand vous parlez de 1973, c'est vrai que moi, c'est le premier chapitre que je ne sais pas le premier chapitre du livre, mais c'est le premier morceau, gros morceau sur lequel j'ai travaillé. Où justement, j'ai un livre qui relatait ce qu'on a appelé, enfin, ce qui a été l'opération Ogro, c'est-à-dire l'attentat qui va assassiner le
Oui.
bras droit de Franco
Oui.
en décembre 1973. Et ça, c'est quelque chose
Qui avait fait
d'absolument
tuer pas mal de monde, quand même.
énorme.
Déjà,
Il y a, ben, il y a, sur l'attentat, il y avait son chauffeur, son garde du corps et un quatrième homme aussi qui est mort dans la voiture qui explose et qui explose au-delà de toute attente parce qu'il avait passé
Oui.
par-dessus
projeté à je
une
sais plus combien
église,
de.
voilà,
Oui.
jusque par-dessus un très haut mur. Et ça, c'est vraiment le fait fondateur de l'ETA. L'ETA va avoir l'importance qu'elle a après 1973 à cause de cet attentat qui, au départ, la police, l'armée ne croient pas du tout que ça peut être ETA qui a fait ça, tellement c'est énorme,
Oui.
tellement c'est parfait, tellement ça a
Oui.
été bien mené, etc. Ils ont creusé un tunnel pendant un an sur cette route, déguisés en électricien. Ils étaient quatre dans ce commando. Enfin, c'est un truc absolument. Enfin, c'est un film d'espionnage,
Oui, bien sûr, oui.
hein. Et dans le livre Opération Ogro, qui relate cette année-là, enfin les années de préparation pour l'attentat, c'est très intéressant de voir justement ce que disent les terroristes, en fait, pourquoi ils font cet acte-là, comment ils ont été amenés, comment petit à petit ils glissent. Au début, ils n'y croient
Oui.
pas trop, ils
Oui, il y a
surveillent.
presque une justification.
Ouais, voilà,
Ouais.
c'est intéressant de voir comment ça se joue à l'intérieur
Oui,
même
oui, oui. Oui.
de ces
Oui,
hommes-là.
un engrenage, hein, une
C'est
sorte
un engrenage,
d'engrenage.
exactement,
Oui,
exactement.
oui, oui. Donc, en fait, là, ça m'a amené, moi, et je pense que les lecteurs auront la même réaction, à m'interroger justement à nouveau, on s'interroge, hein, sur le terrorisme, sur les attentats, qui ont eu lieu à Paris, des attentats de Daesh, évidemment, et il y en a d'autres. Mais effectivement, on se pose la question, on se dit, est-ce qu'il y a des attentats que l'on peut justifier? Et là, moi, je reste couette.
Ben, c'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, je ne suis ni un sociologue, un historien ou un politicien, mais un romancier. C'est-à-dire que je n'ai pas de réponse. Par
Oui.
contre, je
Vous
mets
mettez dans la peau des personnages.
ce qui est dans le livre, montre la complexité, parce que voilà, c'est une question qui, probablement que dans d'autres domaines de la fiction où on veut une réponse, on veut quelque chose de clair, c'est noir, c'est blanc, comment ça fonctionne. Mais la fiction a justement cette force de donner une autre dimension, de faire réfléchir justement sur ces questions-là, de poser
Oui.
des questions. Déjà, au moins de se la poser, c'est déjà beaucoup, je trouve.
Oui, tout à fait, tout à
Je ne
fait.
suis pas politicien, vous voyez, mais je
Oui.
peux faire une réponse de politicien.
Non, mais merci de nous aider à réfléchir aussi. C'est vrai que bon, c'est bon de s'arrêter là-dessus et de se dire, bon, il y a eu des attentats pendant la guerre en France contre les nazis. On faisait sauter des trains, mais il y avait des gens qui mouraient, qui étaient pris en otage aussi. Et c'est vrai que chaque fois, on se pose la question, qu'est-ce qui est justifié, qu'est-ce qui ne l'est pas? Hein? C'est une vaste question.
C'est une vaste question. Après, une fois qu'on a posé celle-là, c'est vrai que enfin, la mort, en bout de ligne, pour n'importe quel go, c'est souvent un peu exagéré, je dirais.
Oui,
Parce qu'il n'y a plus de retour possible.
bien sûr, bien sûr. Et on le voit là. Alors, bon, c'était l'époque, celle de son père, c'était l'époque des. La fin des Trente Glorieuses, hein, il y avait la crise économique qui commençait, c'était la fin de l'insouciance et puis une envie de liberté, d'indépendance aussi, quand même fortement. On le voyait en Amérique, on voyait avec les hippies, bon, tout était remis en question. C'était une époque intéressante, mais qui amorçait déjà une certaine violence. Alors, on voit chez Johanna une nécessité. Je vais partir, affronter mes démons, l'abandon est le prix de ma survie. Alors, il y a beaucoup de mensonges dans sa vie,
Ben
finalement.
oui, enfin,
Tout est construit sur des mensonges.
c'est d'abord construit sur un gros, voilà, sur un mensonge fondateur et se pose la question de savoir à quel point justement ce mensonge-là a irrigué le reste des autres questions de sa vie finalement.
On parlait de la filiation.
De la filiation, ouais. Mais même après dans sa relation de couple, dans sa relation à son nouveau pays, comment elle vit ça. Et c'est vrai que c'est le mensonge et c'est les non-dits, c'est le secret, c'est
le
tout
secret.
L'inexprimé qu'elle, tout à coup, avec cette annonce-là de la dissolution, le choc premier va vite débouler sur l'ensemble de sa vie, finalement, sur des questions où je pense que c'est un gros morceau de son questionnement, de savoir qu'est-ce qui a finalement été vraiment de l'ordre du choix et du non-choix, qu'est-ce qu'elle a vraiment décidé finalement, parce qu'elle s'est laissée aussi, elle est toujours un peu en fuite, elle suit le fil des choses qui arrivent, mais à quel moment on devient vraiment acteur de ça?
Oui, parce que en fait, jusqu'à présent, j'ai mis de mots dans mes questions. En fait, elle fuit.
Ouais.
Elle fuit. Elle fuit la vérité. Elle fuit le fait même d'exister par elle-même. Alors, quand je parle de mensonge, c'est vrai qu'on lui a menti au départ pour la protéger probablement, puisque son père n'est pas son père et que son père est mort et il faisait partie de l'ETA.
Oui.
Voilà. Bon, et sans doute.
Et ça va l'apprendre à 20 ans.
Oui, voilà. On imagine que c'est un choc quand même.
Bien sûr.
Un choc. Sa participation à un attentat. On lui a menti d'une certaine manière aussi.
Oui.
Ouais.
Oui. On lui a pas tout dit.
On lui a pas tout dit. Voilà. Oui, voilà. Et ça, je comprends que sa réaction, cette fausse identité qu'elle a dû assumer, et puis sa relation construite sur la légende d'une orpheline qui a grandi avec son papy ou sa mamie ou son oncle, je sais plus.
Oui, au Mexique.
Au Mexique, voilà. Bon. Finalement, il y a des dérobades continuelles. À un moment dit, je n'arrêtais pas de te dire que je ne voulais pas parler du passé, mais du futur. Je me dis que ça doit être épouvantable de vivre comme ça.
Ben oui. Épouvantable, ce qui est incroyable, c'est qu'elle a quand même... Je pense qu'elle est quand même... C'est quand même une femme forte, voilà. Elle est très, très forte parce qu'elle a réussi à construire ça pendant plus de 20 ans.
Oui.
Mais là où elle est vraiment forte et où elle devient une héroïne, malgré tout, c'est qu'elle a la force de reprendre tout ça en main, malgré tout ce temps-là qui est passé, parce que c'est une longue période.
Ouais. Pourquoi, à ce moment-là. Voilà, parce que c'est quasiment 25 ans.
Oui, ouais. Elle a le courage de commencer ses lettres.
Ouais.
Elle est courageuse de par ce.
Oui, parce qu'elle a vécu quand même des traumatismes importants, y compris la mort d'un bébé qu'elle attendait aussi. Bon, tout ça, c'est lié. Il y a la mort là-dedans.
Oui.
Hein,
oui.
La mort de son père, la mort de cette femme et de son bébé lors d'un attentat auquel elle a participé. Mais enfin, alors, il y a toute cette histoire donc d'attentat, de violence. Et puis, il y a également. Son histoire intime, son histoire personnelle, ses relations avec son mari. Alors là, on sent quand même qu'à un moment donné, il faut qu'elle fasse le point.
Oui. Mais là,
ça peut arriver après 25 ans de mariage.
Ça peut arriver et ça lui arrive. C'est l'autre côté du roman, parce qu'on parle de terrorisme, on parle de l'histoire basque, etc. Mais ça reste aussi quand même un roman d'amour, histoire d'amour.
Qui n'est pas
que rose, donc pas du tout, dans ce qu'elle a à mettre au point. Et c'est pour ça que je disais tantôt à quel point cette histoire d'attentat de sa propre vie va déborder sur plein d'autres questions. Et sa relation avec Xavier, finalement, plus elle creuse, plus on se rend compte que c'était beaucoup plus compliqué. Même à ce niveau-là, elle a fui d'une certaine manière, elle a laissé s'installer.
Elle était comme ligotée, finalement.
Ouais, ouais.
Il me semble qu'elle était dans l'impossibilité de vivre par elle-même. Non ? Pour ne pas se
tout
dévoiler.
Tout à fait, oui, tout à fait.
J'ai l'impression que je vous l'apprends.
Oui. Non, mais c'est bien dit, donc... Ouais, elle était ligotée, ouais.
Parce que finalement, elle a menti à son compagnon pendant 25 ans. Et c'est là où vous dites qu'elle est forte. Moi, je la trouve très forte. Parce qu'elle ment, mais je pense que c'est arrivé. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu dans une double avec une double personnalité, quasiment. Et là, mais on sent qu'elle est paralysée par ses mensonges. Parce qu'en fait, elle ne peut rien faire. Quand je dis elle est ligotée, elle n'a pas de vie professionnelle, j'ai l'impression. Elle n'a pas eu d'enfant, finalement. Et elle est toujours entre deux mondes. Elle est toujours entre nous.
Oui, oui, ben c'est toute la question de l'exil aussi qui traverse le roman sur ce déracinement.
On va en parler de ça par rapport justement à tous ces gens qui sont exilés, immigrés, qui se retrouvent personne ne les connaît. Et elle, on ne la connaît pas. Finalement, les Canadiens qui la rencontrent ne la connaissent pas. Ils ne peuvent pas la connaître.
Ils ne peuvent pas. C'est l'arrachement géographique, culturel de ses racines. Comment on se reconstruit ailleurs, même si elle est quand même dans des bonnes conditions. Son mari est anesthésiste. Voilà, il gagne bien sa vie. Ils ont un bel appart à Montréal. Oui. Mais au-delà de tout ça, reste justement cette question de changer de pays. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça déplace en soi? Quel jeu on joue et comment on se reconstruit aussi?
Oui. Et le fait de ne pas en parler à son mari, il aurait pu l'aider, mais elle ne peut pas lui en parler.
Ouais, je pense que dès le début de leur relation, un peu par hasard comme ça, cette histoire où elle travaille dans un restaurant au Mexique et lui il est un congrès médical venu du Québec, et puis voilà, il se retrouve, et puis c'est un peu le coup de foudre. Et je pense qu'elle a très très envie de, à ce moment-là dans sa vie, d'avoir du soleil dans sa vie, de voir quelque chose de beau. Et je pense pas qu'elle puisse ramener directement son passé dès le départ dans cette relation qu'elle veut construire.
Oui, parce que là, j'occulte, effectivement, je pense qu'il y a un danger également. Parce que. Vis-à-vis de l'ETA.
Bien sûr, oui, elle peut pas. Enfin, déjà, elle peut pas retourner chez elle en France. Elle devrait même pas quitter le Mexique à ce moment-là, mais elle va faire ce pas-là quand même, plus fort qu'elle. Et ils vont. Une fois que finalement, leur relation a commencé, c'est vite trop tard pour pouvoir revenir sur les non-dits. Je pense qu'elle a peur, quoi, que si elle dit la vérité, ça va s'écrouler.
On s'interroge sur sa facilité. Là aussi, on essaie de réfléchir, on se dit, bon, elle a eu une vie tellement compliquée qu'on peut comprendre et on peut admettre qu'elle ne réagisse pas forcément d'une manière très conventionnelle, mais sa facilité à quitter son compagnon, à quitter ses parents même. Comme vous dites, elle est forte.
Oui, alors après, quand elle quitte ses parents, quand elle quitte le pays, c'est bon, elle est un peu forcée, hein, mais il y a eu déjà avant cette crise-là, cette révélation, que ses parents lui ont menti quand même aussi pendant longtemps. Donc je pense qu'il y a aussi cette forme de révolte
dans cet acte de dire, elle en veut peut-être.
Elle tourne le dos un peu, oui.
Mais par rapport à son mari, à un moment donné, elle n'est pas encore arrivée en Pays Basque, elle lui dit « c'est bizarre, tu me manques ». Bon. On va voir. Pour l'instant, nous allons écouter. Vous avez choisi, je crois que vous avez choisi Like a Rolling Stone de
Bob Dylan.
Bob Dylan, voilà. C'était l'époque des années 70, je pense. Hein, c'était à cette époque-là, voilà. Alors nous l'écoutons. Merci.
Selling any alibis as you stand to the vacuum of
auteurs. Monique Fauché.
Nous retrouvons Éric Plamondon pour son ouvrage Oyonnax, un roman paru aux éditions Quidam Éditeur. Ça m'a fait rire, Quidam Éditeur. Quidam, c'est une personne quelconque. Ben dans le fond, toutes les personnes quelconques ont une histoire à raconter. Hein.
Exactement.
Hein, ça doit être ça.
Tout à fait.
Voilà, alors donc, nous sommes avec Oyonnax. C'est un prénom basque. C'est une femme qui a eu un vécu tumultueux, basé sur le mensonge et qui, à un moment donné, a besoin de... Ah, j'allais dire de confession.
Ouais,
dans le fond.
C'est ça, c'est ce qu'elle fait.
Oui.
C'est une lettre de confession qu'elle écrit.
Et on se sent libéré.
Tout à fait. Ouais. Oui, c'est exactement ça.
Oui. Alors, en revanche, il y a quelque chose que l'on comprend tout à fait, parce qu'elle quitte donc, elle quitte sa maison, elle quitte son mari... Et au lieu de prendre l'avion qui était prévu, qu'elle avait prévu de prendre, elle a son premier moment d'autonomie, d'indépendance, de liberté. C'est ça, non ?
Oui, et elle va prendre la route.
Elle va
prendre
la route.
Avant de prendre les airs.
Voilà, personne ne sait où elle est. Elle est toute seule. Hein ? Un acte d'indépendance, enfin.
Oui, surtout que, et encore une fois, c'est un peu sur un coup de tête, hein. Elle est déjà à l'aéroport, puis elle dit non, mais il y a quelque chose là qu'il faut qu'elle fasse, et c'est comme si elle avait besoin d'arpenter ce pays, son pays d'adoption, elle-même, toute seule, sans Xavier, sans aller dans sa belle famille, sans partir à Québec comme d'habitude, même si c'est la route qu'elle va reprendre, mais c'est important, je pense que c'est important pour elle de faire ça. En plus, c'est un voyage un peu avorté, parce qu'on sait à un moment du livre que quand elle est au Pays Basque, qu'elle a un projet de faire de la photo, qu'elle avait déjà envie d'aller dans le fleuve Saint-Laurent photographier les baleines qui la ramenaient à ses ancêtres basques qui venaient pêcher la baleine dans le Saint-Laurent.
On pourra en parler, exactement.
Qui sont arrivés bien avant Jacques Cartier. Et donc, elle va prendre la route, effectivement, avant pour se mettre les idées claires aussi.
Alors, Éric Plamondon, je vais vous faire souffrir encore une fois. Parce que, justement, vous qui connaissez bien le Québec, vous allez nous lire ce passage. Je trouve que c'est très intéressant aussi de découvrir un peu ce qu'elle découvre, elle, ce qu'elle vit toute seule, donc avec son appareil photo, probablement. Alors, ça commence ici et ça se termine là. Voilà.
Alors, une petite page et demie. Comme ça, vous me prenez au vol, j'ai même pas pratiqué.
Vous n'avez pas répété, zut.
Je vais essayer de bien faire ça. La route était paisible, peu de circulation, des odeurs printanières de terre humide qui montent, une lumière qui gagne sur les restes de l'hiver, un soleil de moins en moins oblique. De Deschambault à Cap-Santé, en passant par Portneuf, la nature explosait dans les coteaux, plein sud et les berges du fleuve. Le vert tendre des premiers bourgeons rendait le paysage duveteux. C'était de ces jours où le soleil surchauffe l'habitacle de la voiture, mais aussitôt qu'on baisse sa vitre, il fait trop froid. Les plaques de neige dans les sous-bois et la glace des lacs fraîchement calés poussent les derniers frissons avant l'été. À Donnacona, j'ai fait le plein au Pétro-Canada et j'en ai profité pour aller manger un club sandwich au Normandin avant de reprendre l'autoroute. Le GPS annonçait 1h30 jusqu'à Baie-Saint-Paul. Je ne voulais pas m'arrêter à Québec. J'aurais eu trop peur que le hasard me mette sur la route de tes parents. J'ai contourné Québec avant de m'arrêter aux chutes Montmorency. J'avais à nouveau besoin d'une pause. Tu m'avais amené ici une fois, en me parlant du pain de sucre que formait la bruine du torrent en plein hiver. Entendre l'eau tomber, se fracasser sur les roches, plonger dans les remous, m'a fait du bien. Je suis allé humer les embruns sur le promontoire, sans me lancer dans l'escalier panoramique. Il n'y avait pas grand monde. Je me laissais hypnotiser par la cataracte. Il est toujours étonnant de constater à quel point le tumulte d'une chute apaise. J'ai fini de me dégourdir les jambes et le dos en retournant vers le parking. C'est de là que j'ai pris ma photo des chutes Montmorency. Je me suis mise derrière le rétroviseur de mon SUV de location et j'ai fait la mise au point sur l'arrière-plan. Autoportrait de chute hors champ. J'ai pas roulé très longtemps avant de me rendre compte que j'étais épuisé. À Sainte-Anne-de-Beaupré, je me suis décidé pour un motel de film américain, wifi gratuit, cuisinette et air climatisé. Le propriétaire m'a expliqué qu'il y avait de la place en masse ce temps-ci de l'année. Les touristes sont pas encore à ressous, puis les skieurs ont pacté leur gréement depuis un bout. Le genre de personnage qui me rappelait que je n'étais pas né ici.
C'est comme si on y était.
Merci.
Merci à vous. Oui, vraiment, ces descriptions, celles que vous faites aussi ensuite du Pays Basque, voilà. Alors, première liberté, première autonomie qu'elle s'accorde au Canada, qu'elle semble même découvrir. Alors, qu'est-ce qui motive exactement son retour? Vous avez parlé de se libérer, bon, mais pourquoi elle rentre, en fait? Qu'est-ce qu'elle veut?
Elle veut affronter ses démons, parce que elle peut... Tant que l'OTA existait, elle n'avait pas le droit de revenir. C'est des histoires qui sont vraies. Hein. C'est basé sur c'est romancé ici, mais
elle risquait sa peau.
Ça existait, voilà. Donc la dissolution lui donne l'espoir qu'elle peut rentrer sans danger.
Que tout est oublié.
Voilà, la dissolution voulant dire enfin je peux peut-être rentrer. Donc il y a ça, mais au-delà de ça, je pense qu'elle a Quand on parle du choc initial, une fois que les mots sont partis, que la débâcle a commencé, qu'elle suit les fils des mots, finalement c'est les mots qui la ramènent chez elle. C'est ça qui va lui faire traverser l'Atlantique, qui va la ramener à son lieu de naissance où tout a commencé, où elle a commencé, comme si elle avait besoin de revenir. C'est vraiment le retour aux sources. Vous parliez des saumons tout à l'heure, remonter à la source pour comprendre.
Oui, parce qu'on sent qu'elle a besoin de retrouver sa terre, son océan. À un moment donné, elle rêve de respirer dans l'eau. Il y a ça.
Oui.
Bon, dans le fond, elle a le sentiment d'être, même si elle aime le pays, d'être une étrangère au Canada. Et encore, ça nous renvoie aussi au problème des immigrés. Hein? Quand on est dans un pays, même si on l'aime, même si on est reconnaissant d'être accueilli, on est quand même étranger.
C'est Roland Barthes qui, dans un essai qui s'appelle « Le soleil du Sud », assez court, qui est très beau, qui parle justement de sa jeunesse au Pays Basque, terminait en disant: il n'y a de pays que l'enfance. Et donc, c'est ça qui la rattache. C'est pour ça qu'elle repart aussi, là-bas.
Et vous, Éric, c'est ce que vous éprouvez en vivant à Bordeaux?
C'est sûr que ça... Je vous mentirais si je vous disais que je ne m'inspire pas un peu de mon expérience personnelle. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'impossible compréhension comme totale d'un lieu si on n'y a pas été enfant, si on n'y a pas grandi, si on n'a pas été jeune, si on n'a pas embrassé sa première blonde, là, presque. J'exagère un peu, mais c'est vrai qu'il y a... C'est pas pareil. Que quand je retourne... L'émotion que j'ai quand je retourne dans le bois de l'ail à Cap-Santé, où j'ai grandi, un peu dans le bois, justement, avec j'avais mon chien, mon chat. Quand je repasse là, j'ai des frissons quand même. Ça, je peux pas me les enlever, ça. Oui. C'est là.
Et même entendre des expressions, le langage. Vous parlez à un moment donné du langage, c'est fort intéressant. Bon, on va y revenir. Bon, alors, elle rentre. On a bien compris qu'elle rentre pour ça aussi. Elle a besoin du Sud, dit-elle d'ailleurs. Il y a également un problème de culpabilité, de remords aussi qui la travaille.
Bien sûr, et c'est sur cette question justement de où elle a été trompée, mais où aussi à quel point c'était de l'ordre du choix ou sa décision ou pas sa décision. Et cet acte, enfin, les conséquences voulues ou non voulues, elle les a jamais traitées, elle les a jamais... Je pense qu'elle a besoin de réaliser sa part de responsabilité, de l'accepter aussi, parce qu'elle ne l'a pas accepté. Elle a dû fuir, elle a dû partir, elle a quitté le pays. Donc, c'est aussi problématique. Elle est sur des sables mouvants à chaque fois.
Et puis, avec cette sensibilité qu'elle a, cette empathie de femme, finalement, ayant elle-même perdu cet enfant qu'elle attendait, voyant, bon, il y a l'attentat également de 2001, quand on voit les corps qui tombent, c'est vrai que cette mort dont elle est responsable, c'est lourd à porter pour elle.
Bien sûr.
Oui, évidemment.
Ça fait partie des choses qu'elle a presque réussi complètement à se cacher à elle-même, mais on n'y arrive jamais.
En fuyant.
Voilà. Donc, elle voit bien, je pense, après plus de 40, enfin, plus de 25 ans, que ce n'est pas la solution.
Oui. Alors, vis-à-vis de son compagnon, vis-à-vis de son identité, vis-à-vis de son passé, elle doit tout affronter. Alors, vous pensez que le fait d'avouer, parce qu'elle veut aller se dénoncer, vous pensez que ça va la libérer, ça?
Enfin, vous me renvoyez au proverbe « faut avouer à moitié pardonner ». Dans ce cas-ci, non, je pense pas que ça... Enfin, elle n'aurait pas le pardon, mais au moins, elle aurait eu le courage jusqu'au bout, je pense, pour elle. c'est le courage de dire et vraiment d'aller se dénoncer. Donc c'est la seule solution qu'elle peut voir pour vraiment dire qu'elle est responsable, de donner sa responsabilité complète par rapport à ça.
Et là, elle nettoie, elle fait le ménage dans sa tête, en tout cas.
Ouais.
Alors, je parlais de description de lieux. Il y a le Canada, il y a Paris également, et le Pays Basque. Alors, dans le Pays Basque aussi, vous racontez beaucoup d'histoires. Bon, sur la pêche, l'exploitation et l'extermination des cachalots. Alors, je me suis dit, par rapport à ce cachalot mort sur la plage, est-ce qu'il y a un symbole ?
Oui.
Merci.
Il y a toujours un peu de baleine dans mes livres, mais ça, pour la petite histoire, j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur Moby Dick de Melville.
D'accord.
Alors, vous voyez, ça fait longtemps que la
Donc
baleine
vous avez
est un symbole important.
Rapport spécial,
voilà, avec dans ce cas-ci, c'est pas une baleine blanche, mais c'est pour moi ce qui symbolise le mieux la baleine. Enfin, déjà, c'était la question chez Melville, c'est ce symbole de l'indicible. Mmh. Comment chez Melville, c'est comment pouvoir parler de ce monstre qu'on ne connaît pas, en plus un monstre marin. On est au milieu du 19e siècle, on n'a pas les connaissances qu'on a aujourd'hui, même si aujourd'hui on se pose encore plein de questions sur ces mammifères. Mais, et qui nous renvoie aussi à l'étymologie de whale en anglais, qui est whale, qui est le wall aussi, qui est le mur, une espèce de chose qu'on a défoncer pour pouvoir atteindre une autre vérité. Et c'est toute la quête d'Akab qui, dans le symbole de la baleine blanche, après quoi court-il.
Et
le cachalot d'Oyana qu'elle va voir quand elle est petite, pour elle, c'est comme une boule de questions, de choses qui la renvoient après, je dirais presque au sens de sa vie, en tout cas de la vie, et ce cachalot-là, elle ne peut pas l'oublier, en tout cas, c'est sûr.
Oui, alors moi j'ai appris que, de toute façon, en Pays Basque, c'était une habitude de chasser les cachalots.
Oui, la baleine basque, au départ, au XIIIe, XIVe siècle, déjà, ce qu'on appelait Euskal Balea, qui a disparu parce qu'on l'a trop chassée, donc il n'y en a plus maintenant, elle est exterminée.
Totalement.
Depuis. Alors peut-être qu'il y a quelques spécimens qui vont venir.
Mais enfin, s'il y a des Japonais, des Norvégiens, c'est fichu.
C'est mal parti.
Oui. Bon, donc, elle retrouve le Pays Basque et elle retrouve les changements. Alors, effectivement, on se dit, revenir 25 ans après, alors déjà, elle retrouve ses parents. Les lecteurs découvriront eux aussi comment ça se passe. Beaucoup d'émotions. Et elle, de coup, retrouve un pays. Alors, on imagine très bien, parce que l'Espagne a tellement changé en 25 ans. Elle ne se sent plus tout à fait chez elle, quand même.
Non, dans ce cas-ci, c'est le Pays Basque, mais je pense que ça pourrait être n'importe quelle grande ville ou ville de France ou ces 20-25 dernières années, partout, une explosion des villes, des gens, du tourisme, au début, quand elle part, elle pense pas vraiment à tout ça, mais c'est vrai qu'elle a ce choc de voir, c'est un peu préservé parce que c'est des petits villages de bord de mer, mais le tourisme a explosé.
Oui, c'est pas la Costa Brava.
Non.
Mais c'est vrai que ce que vous dites, c'est que, en fait, l'ETA a préservé la côte basque de cette émergence d'immeubles que l'on trouve sur la côte méditerranéenne.
Pendant des années, on n'y allait pas jusque dans les années 90 parce que régulièrement, il y avait des explosions, des voitures qui sautaient. Moi, je me souviens la première fois que j'y allais en vacances l'été, on mettait encore, je pense qu'il y en a le dit à un moment donné, mais on mettait encore le feu assez souvent dans les poubelles du McDonald's de Saint-Jean-de-Luz, par exemple. Il y avait quelques agences immobilières plastiquées aussi, donc ça tenait un peu comme en Corse un peu à l'écart.
Oui. Alors, à un moment donné, on y revient peut-être, on en a déjà un peu parlé, mais le territoire est un langage.
Mm-hmm.
Donc, ça, c'est vraiment un langage ?
Il faut l'avoir arpenté petit pour en connaître la langue. Bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure sur cette émotion, sur ce quand vous parliez tout à l'heure la description que je fais là, le long du fleuve à Cap Santé des Chambeaux, c'est là que j'ai grandi. Moi, je vois bien que si
très évocateur.
S'il n'y avait pas grandi, ce ne serait pas la même chose. On n'a pas le même, on développe pas le même imaginaire. On sait que la pensée est définie par le langage et le territoire fait partie de cette pensée. Donc, tout ça, pour moi, ça va ensemble, ça, 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 ça s'organise, ça grandit ensemble. Après, comme je dis, moi j'ai changé de pays, donc j'ai appris, bon, j'ai perdu un petit peu mon accent québécois, mais surtout j'ai appris aussi une nouvelle langue quand même, même si on reste dans un territoire francophone.
Oui, donc de nouvelles expressions. À un moment donné, il y a un chapitre qui m'a interloqué, généalogie. Alors, pourquoi ?
Généalogie. C'est important la généalogie, non ? C'est encore le retour aux racines.
Oui, c'est ça, oui.
Elle remonte dans le passé.
Oui, on parlera des racines, ça m'intéresse. Ça. Oui, le passé, alors elle s'invente beaucoup d'ascendants.
Ouais, elle a besoin comme d'une assise, d'une construction mythologique presque qui va dépasser justement ce qui lui a manqué, puisque on apprend que pour elle son histoire du côté paternel du moins est compliquée, et donc elle va c'était comme si finalement à force d'écrire aussi, parce que ça c'est vers la fin du livre, elle se rend compte de l'importance justement de la fiction, mais de raconter des histoires, de raconter son histoire, et s'inventer une descendance un peu comme ça, enfin, réelle ou pas, mais se l'inventer soi-même, c'est prendre déjà beaucoup d'ascendance sur sa propre vie, de responsabilité, de se construire soi-même dans ces mots-là, dans cette fiction-là.
Oui. Et avoir des accroches un peu. Ça m'a intéressé ça parce que je me dis, dans le fond, son père était dans les années 70, à une époque où, au contraire, on parlait plutôt international. On voyageait, les jeunes voulaient voyager n'importe comment, enfin, souvent avec des moyens très, très limités. Ils se rencontraient, ils échangeaient, il y avait... on faisait tout ensemble. Or là... Il y a autre chose qui se passe, un retour peut-être davantage à l'individuel, un retour aux sources, un retour aux racines et un besoin de tout cela.
Pour Rihanna, vous voulez dire ?
Oui, mais après... globalement, je dirais peut-être.
Oui, aujourd'hui.
Oui.
Ben oui, parce que, enfin, on a des fois, j'ai l'impression qu'on a un peu jeté le bébé avec l'eau du bain sur cette question de mondialisation, où on a voulu tout aplanir, il faut que tout le monde parle anglais, que tout soit pareil, vous allez dans n'importe quel grand centre-ville aujourd'hui, on a tous la rue piétonne avec les mêmes boutiques partout, ça amène un retour souvent justement sur ses propres... On a besoin de voyager, si on va quelque part, qu'il y a quelque chose de différent quand même, que ça soit pas pareil au Pays Basque espagnol qu'en Finlande. Et ça, je pense que ça revient, il faut que ça revienne, il faut que ça reste en tout cas.
Oui, parce que, oui, moi j'évoquais, pour moi, en lisant, je me disais, mais c'est vrai qu'il y avait une époque, c'était tous les vêtements étaient ethniques, vous auriez vu, on était déguisés, les cuisines aussi, les repas que l'on faisait, mais tout ça, c'était surtout pas le cassoulet, ou surtout pas. Bon, voilà, donc elle retrouve les lieux. On va pas parler de la fin, parce que effectivement, ça commence à devenir un polar, on est inquiet pour elle, mais ça, nos auditeurs le trouveront eux-mêmes dans votre livre. Mais en revanche, moi, c'est moi qui vais, je ne vais pas vous faire souffrir une fois encore, mais il y a un texte, alors It's Egin, je ne connais pas, je n'ai pas eu le temps d'aller voir qui est-ce.
Vous allez le lire ou pas ?
Oui, je peux le lire ?
Oui, je vous laisse.
Vous voulez le lire ?
Non, ça me fait plaisir de vous entendre le lire.
Oui, c'est... It's Egin, alors Eugène Green, à propos de son film « Faire la parole » en 2015. En basque, pour dire « parler », au lieu d'utiliser un verbe, on dit « it's Egin », ce qui veut dire littéralement « faire parole ». Et je pense que c'est un des éléments qui montre que la langue basque est un témoignage vivant de la naissance du langage. Le fait de faire la parole, c'est une sorte de miracle. Et donc, on l'exprime quand on veut faire référence à ce miracle, on dit littéralement « faire parole » ou « faire la parole ». Minée par deux siècles de rationalisme matérialiste, l'Europe du XXe siècle s'est auto-détruite dans une série de folies meurtrières, toutes puisant leur origine dans une tentative de créer par la raison un être nouveau. Le nationalisme raciste et belliciste, le fascisme, le communisme, le scientisme se sont succédés comme croyances modernes. De Verdun à Auschwitz, des goulags à Tchernobyl, l'homme européen s'est éloigné de ce qui auparavant avait constitué son humanité et toujours au nom d'une pensée se voulant rationnelle. Le Pays basque a subi de près ou de loin toutes ces horreurs et s'est trouvé au cœur de la guerre d'Espagne qui en quelque sorte les résume. Mais alors que notre continent demeure aujourd'hui en état de choc, incapable de se rendre compte de ce qui lui est arrivé et encore moins de réagir, en Euskal Herria, qui représente probablement l'ère européenne de la plus longue continuité de langue et de civilisation, on constate avec une certaine adéquation entre la terre, ses habitants et l'idiome qui constitue la base de leur vision du monde. Dans le monde actuel où, à une échelle planétaire, l'homme est en train de perdre sa spécificité et sa place, l'une et l'autre ayant leur origine dans la parole, les Basques constituent un foyer de résistance et un modèle qui pourrait rendre à l'Europe, ce continent qui ne sait plus ce qu'il est et qui ne croit plus en rien, le moyen de comprendre son passé, de se préparer un avenir et surtout de vivre son présent.
Donc il faut absolument voir ce film de Jeanne Green, Faire la parole, qui est... Donc sur le Pays Basque, qui ne va pas parler de l'ETA ou du terrorisme, mais qui parler des jeunes d'aujourd'hui. On entend la langue basque d'une manière absolument superbe, c'est sous-titré. Il renvoie à un grand poète basque aussi. Et pour moi, c'était ces mots très importants qui résument vraiment toute cette longue histoire, comme on disait, tout à l'heure millénaire, et sur cette nécessité
la
de
cause
faire
était
parole.
Belle, mais les moyens ne l'ont pas été.
Comme souvent toute grande cause, elle est souvent dévoyée. Oui. Une fois qu'on a le pouvoir.
Voilà. Alors, il y a des moments dans la vie où la question du choix ne se pose pas, on ne choisit pas, on agit. Vous croyez ça?
Oui, enfin sur le moment, des fois dans l'action, quand ça chauffe, des fois il faut. Mais je pense que l'action nous définit plus que ce qu'on dit sur nous. C'est à un moment donné, les gens, on les juge par ce qu'ils font, pas par ce qu'ils disent.
En tout cas, un grand merci pour ce livre passionnant. En fait, oui, il y a du roman policier, je l'ai dit, réflexion, histoire. Voilà, et puis bon, si on a envie d'aller revoir le Pays Basque ou le Canada, d'aller au Canada, hein, on peut se fier également à votre ouvrage. En tout cas, Oyana est un beau personnage de femme. C'est édité chez Quidam, éditeur. Éric Plamondon, un grand merci.
Grand merci à vous.